à me pencher sur ces années profondes du siècle passé, à me retourner sur les fructueux échanges avec Nathalie Salzmann, à éprouver sa présence charnelle dans ses écritures. Ce titre, « La chute des corps », mon titre, s'est imposé à moi. Je vais essayer de vous raconter pourquoi. Ce sera donc un récit et des images mentales cette fois, plutôt qu'une étude à proprement parler. Nul doute que mon titre, « La chute des corps », s'associe à son texte « Tomber hors du monde ». C'est un texte qui est paru d'abord dans la NRP. C'est un titre en référence avec la remarque de Freud, « Nul ne tombe hors de ce monde ». Et c'est un texte qu'elle a repris dans « La guérison psychanalytique ». Je dois à sa lecture la découverte de la nouvelle de Tchekhov, salle numéro 6, dont l'inquiétante étrangeté illumine, je crois, l'ensemble des recherches de Nathalie, de celle que j'appellerai Nathalie maintenant. Nul doute aussi que mon titre convienne à ce panorama des Alpes du côté suisse que l'on découvre à Chandolin, qui est un village du Valais en forme de balcon sur le Cervin notamment et d'autres sommets, où Nathalie nous avait rejoint, ma femme et moi, et quelques autres, pour un été, pour voir, je dirais, en reprenant l'expression de Freud dans ses études sur l'hystérie, pour voir, comme l'écrivait Freud, comment la névrose prospère à 2000 mètres d'altitude. Puisqu'effectivement, c'est un site loin du monde, au-dessus de Sierre, à l'endroit où vivait un temps le poète Rilke. Et c'est aussi un lieu très exceptionnel parce que très sauvage. Hein. Un lieu qui avait été élu par une autre dame tout à fait audacieuse pour son temps, Ella Maillard, peut-être vous la connaissez, grande exploratrice et aussi une écrivaine que je vous recommande. C'est un site donc un peu à part, pour la Suisse en tout cas, et qui offre de vertigineux à pic. Et dès l'arrivée de Nathalie par le biais du car postal, hein, cette vénérable institution helvétique, elle s'est écriée, je me souviens, j'ai été surpris quand même, je l'accueillais à la descente du car, elle s'écrie « Si je tombe, que ce soit d'ici, les yeux grands ouverts contre le vide ». C'est une déclaration de sa part qui lui ressemble, vous l'aurez compris, en entendant Monette. Vous l'avez entendu aussi, non pas les yeux ouverts sur le vide, mais contre. Sur les pentes un peu raides où nous nous promenions tous les jours, Nathalie aimait beaucoup la marche, elle se retournait et pour ne pas s'essouffler, elle grimpait en arrière, le dos face, si l'on peut dire, à la montagne. Et de cette façon-là, elle conversait, elle continuait la conversation avec moi qui la guidais, puisque moi je marchais en regardant devant moi, et un peu comme si nous avions été face à face, dans son salon. Nathalie aimait converser par-dessus tout, et quelle que soit la hauteur de l'endroit. Parfois, il m'arrivait de penser qu'avec les montagnes derrière elle, elle était un peu comme Miles Davis, qui jouait le dos tourné au public. Et il y avait aussi ce partage autour du jazz entre elle et moi, et notamment Miles Davis, donc John Coltrane. Nul doute aussi que mon titre ne réponde à la disposition d'esprit qui est la mienne aujourd'hui des années après sa disparition, quand il s'agit de parler d'elle, d'écrire sur elle. Bon, parler d'eux, écrire sur ne sont pas des opérations semblables. Mais elle, Nathalie Salzmann, ne sera pas non plus le prétexte à des considérations à propos de son œuvre. Celle-ci, nous sommes ici ensemble pour l'approfondir durant cette semaine, pour y revenir encore, tant pour elle jusqu'au bout. La psychanalyse aura été, je cite une phrase de Qui est le barbare, son dernier texte donc, la psychanalyse aura été une transgression aventureuse vers l'inconnu. C'est sûr, son chemin de pensée sera évoqué, discuté par d'autres que moi, tant son intelligence met au travail la pensée de chacun, mais une pensée encore, bien propre à faire grincer un certain discours psychanalytique décharné, désincarné. En ce qui me concerne, il s'agit d'une amitié, je dirais, en tant qu'effet de travail de culture entre deux personnes, avec cette dimension évoquée par Monette, conflictuelle, dans le meilleur sens du terme, dans tous les sens du terme. Une amitié que je ne peux comparer, enfin, la comparaison m'est venue, elle s'est imposée à moi, elle s'est imposée à moi à partir de celle de Maurice Blanchot et de Georges Bataille. Maurice Blanchot, dans son recueil « L'amitié », justement, nomme cette amitié une exigence sans égard entre lui et Bataille, et la parole que Georges Bataille a eue dans sa vie, le poids de cette parole. Avec notre amitié, entre Nathalie et moi, au flot joyeux et tumultueux, qui, je dirais, ces flots se jettent dans l'océan sans rivage du désir d'analyse, les fauves sont lâchés. C'est son expression, elle me l'écrivait. Et je crois qu'effectivement, pour elle comme pour moi, la pulsionnalité est au centre de l'arène psychanalytique. Et maintenant, cette amie entière entre je et moi, elle m'accompagne dans le silence de sa parole. Après la fin de ce courant de cartes postales et de fax, c'était l'époque bénie du fax, qui précédait ou qui complétait nos rencontres, plus les coups de téléphone à la Nathalie. Pendant les absences qui s'ensuivaient entre deux séminaires ou entre deux rencontres. Désormais, il ne s'agit pas pour moi de combler un vide, il s'agit de me tenir à mon tour contre le vide qu'elle a laissé, en l'affirmant, voire en me réfugiant en lui, contre lui. Peu après sa mort soudaine, j'ai contribué à un hommage collectif, organisé par Ghislain Lévy, qui sera bientôt ici, je crois, l'esprit d'insoumission, vous connaissez ce recueil. C'est donc un certain nombre de participants qui ont évoqué la mémoire de Nathalie peu après sa disparition. J'ai aussi été partie prenante de quelques colloques, pour lesquels, en général, la douleur de sa perte était si vive qu'elle me poussait plutôt à me réfugier dans une réflexion théorique, défensive donc, sur ses positions et ses propositions, alors même que ses positions théoriques, celles de Nathalie, excèdent toute théorie, si l'on accepte de la suivre dans cette odyssée que vivre en analyste aura été pour elle. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, 10 ans après, peut-être grâce à l'émotion d'ailleurs, c'est devenu possible pour moi de me réjouir de sa présence retrouvée. Un travail de manducation a eu lieu et je n'ai pas le goût d'éviter ce qu'elle est devenue pour moi, une interlocutrice intérieure. Peut-être vous vous demanderez ce que ça signifie un interlocuteur, une interlocutrice intérieure. Je vous répondrai ceci, quelqu'un de décisif pour exister, quoique perdu de vue ou disparu, donc tombé hors de votre monde, à vous, mais avec lequel, avec cette personne, vous continuez à vous entretenir, ou mieux, elle continue à s'entretenir avec vous, en vous. Ici, je dirais que la solitude s'est métamorphosée en ce néologisme, la dualitude. Bon, il y a des exemples célèbres de cela, hein, célèbres et avérés, de cette dualitude. En tout cas, je les vois comme tels, à commencer par exemple avec l'entretien infini de Freud et Moïse. Ou encore, justement, Lou Andreas Salomé, après la fin de sa liaison avec le poète Rilke. Ou plus près de nous, Vladimir Granov avec Lacan, je peux en témoigner. J'étais souvent dans le cabinet de Granov. Ou même, pour chacun de nous, avec son Freud, celui que nous portons en nous. Il ne s'agit donc pas d'un dialogue avec les morts, mais d'une disposition psychique envers l'autre en soi, qui est aussi une réponse à une question insistante qui revenait souvent dans les échanges avec Nathalie. Mais au fond, Jean-Michel, pour qui écrivez-vous? C'est peut-être aussi ça que tu évoquais. Je ne sais pas si je le sais mieux aujourd'hui, mais je sais que cette question résonne dans la patience du souvenir tombé entre nous, et dans ce mouvement aussi imprévisible du mourir, qui était évidemment naguère dérobé dans l'échange que nous avions. À ce dispositif psychique, que j'appellerai donc la dualitude, paradoxe en forme d'oxymore, qui n'est pas sans ressembler, au fond, à l'échange, et c'est un échange que Nathalie aimait beaucoup, l'échange entre le chat de Cheshire et Alice au Pays des Merveilles. Et à cette dualitude correspond une phrase qui avait le don de mettre en joie Nathalie et qu'elle avait trouvée dans son auteur d'absolue prédilection, certainement son interlocuteur intérieur privilégié, bien sûr, Dostoïevski. Dostoïevski qui écrit dans L'Idiot cette phrase inouïe, je vous la cite, « Le prince Mishkin se lève, complètement effondré. » La levée de cet étranger en soi, qui de complètement effondré se relève d'être reçu en vous comme un hôte, serait peut-être une réponse à son accueil en vous, à celui que vous lui faites, à sa touche, à la blessure qu'il occasionne. Et c'est peut-être aussi dans une situation d'une grande... une situation interne d'une grande proximité avec cela, que Freud a pu déclarer dans ses études sur l'hystérie, à propos de son écriture, à propos du style de celle-ci, je vous cite Freud, « La nature de l'objet dont il parle, à propos duquel il écrit, la nature de l'objet des Gegenstandes, la nature de l'objet en est responsable, responsable de mon écriture plus que ma préférence. » Et en allemand, Gegenstand, c'est l'objet en tant qu'autre, vis-à-vis, l'hôte de l'hôte. Quand j'ai fait la connaissance de Nathalie Salzmann, ce ne pouvait être que grâce à Marie Moscovici, que je connaissais grâce à l'APF et grâce à une amitié. C'est une de ces chances de ma vie, grâce, disais-je à Monette, je rends grâce pour cela. Je crois que Nathalie n'aurait pas du tout aimé qu'on rende grâce, mais bon, je le fais quand même. Ce sont deux femmes ordinaires, exceptionnelles, les deux à la fois, avec qui j'ai eu la chance de partager beaucoup de choses. Et c'est grâce à Marie que je rencontre Nathalie. Marie, je dirais, Marie Moscovici, l'amie trop proche de Nathalie. Trop proche pour que d'amis, elle ne devienne pas ennemie. Mais bon, on oscille de l'amour à la haine, hein, et retour. En tout cas, Marie avait l'habitude de dire à propos de Nathalie que elles étaient toutes les deux tombées dans le baquet, hein, le fameux baquet de la planche, enfin de Freud avant, dans le baquet de la psychanalyse toute petite. Et je crois que c'était très vrai, tant elles étaient pétries de psychanalyse, toutes les deux. Psychanalyse faite femme, on y reviendra. C'était donc au séminaire de Marie, le séminaire qu'elle proposait dans la Maison des sciences de l'homme, dans les années 90, un séminaire sur le psychique et le culturel, qui était un de ces moments exceptionnels où elle faisait cohabiter aussi bien Jean-Michel Rey, avec qui elle allait faire ensuite la revue L'Écrit du Temps, hein, une très belle revue. Mais il y avait aussi Georges Didjou-Berman, Patrick et Nicole Leroux, Patrick Lacoste, Pierre Fédida et d'autres philosophes. Et donc c'était un lieu de travail, de réflexion, de liberté comme ici, hein, en dehors de tout cadre. Sinon celui de l'échange et de ce goût de la recherche qui était très vif dans cette période des années 90. Et un soir, Nathalie avait développé une réflexion autour de la réalité paranoïaque, hein, à partir de la biographie et des romans de science-fiction de Philippe K. Dick. Elle écoutait parler de la différence entre ce qu'elle appelait une réalité fiable et une réalité fallacieuse. J'avais été frappé ce soir-là par un trait durable dans les écrits et les propos de Nathalie. C'est qu'elle ne néglige jamais l'histoire des personnes qui retiennent son attention et la place que celle-ci accorde à la mort. J'étais relativement jeune à l'époque et avec la maladresse de la jeunesse, hein, et mon enthousiasme à l'entendre, j'avais osé, fort de ma connaissance de Dick, qui avait été acquise de façon assez particulière dans les volutes du festival de Woodstock, qui est une année dont on se souvient. Et j'ai eu la chance de vivre ça. Et puis, dans cette année-là, j'avais beaucoup erré aux États-Unis et fréquenté beaucoup de milieux très différents et rencontré non seulement Dick au niveau de ses écrits, mais aussi quelqu'un qui a été très important pour moi, c'est William Burroughs. Et il y a certainement des liens entre Burroughs et Dick, hein, notamment. Si vous lisez Le Festin nu, et puis avec la technique littéraire de Burroughs, le cut-up, hein, c'est-à-dire un type de collage textuel. Les néo-réalités, comme le goût pour les chats, allaient constituer le socle mouvant de l'amitié entre Nathalie et moi. Et à ce propos, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un petit passage de Dick qui lui plaisait beaucoup et qui est extrait de ce livre qui en anglais s'appelle A Scanner Darkly et en français c'est Substance mort. Donc Dick, imagine ton chat en train de vider une taie d'oreiller, puis d'y fourrer tous tes objets de valeur, pendule électrique et radio de chevet, rasoir, tout ce que la taie peut contenir. C'est un tout autre chat qui écume ta maison quand tu n'es pas là. Il te pique tout et va le mettre au clou. Il allume tes joints ou se met à marcher au plafond. Il appelle des gens par l'interurbain, histoire de saler ta note de téléphone. Et Dieu sait quoi. Un vrai cauchemar, un monde inquiétant de l'autre côté du miroir, l'envers terrifiant d'une ville normale, avec des créatures méconnaissables qui rampent dans les coins. Je crois que Nathalie était tout à fait capable d'explorer ce genre de territoire. Ce soir-là, ce soir de cette rencontre inaugurale, fondamentale, vous l'aurez compris. Ce soir-là, la conversation avec elle s'était poursuivie dans les salons du Lutetia, juste en face de la Maison des Sciences de l'Homme. Et Nathalie avait commandé son champagne favori, le Dutz Brut Royal. Et c'était une conversation qui s'est prolongée tard dans la nuit, avec l'encrier de Luther jeté à la gueule de Satan, hein, puisque déjà la question du mal et de son esprit s'imposait à elle, et qu'elle prenait un plaisir visible à m'écouter déployer les exploits de l'esprit qui dit toujours non. Hein. Satan, c'est l'esprit qui dit toujours non dans les religions monothéistes. Peut-être spécialement d'ailleurs en islam, elle connaissait mal cette religion, avec la figure d'Iblis, hein, qui est l'équivalent de Satan, l'ange de feu qui refuse que Dieu ne se suffise pas à lui-même. Autrement dit, Satan, Iblis, c'est le plus que parfait monothéiste, hein, ce qui est détestable et dangereux, évidemment. Pour elle, le mal, ce n'était pas seulement, ça ne devait pas être seulement une question métaphysique et encore moins théologique. Le mal à la manœuvre dans nos vies, le mal de ces années d'après Auschwitz. Très belle expression, d'après Auschwitz, pas après Auschwitz. D'après Auschwitz, c'est l'expression que Paul Celan a trouvée pour dire que l'écriture doit se poursuivre, mais d'après Auschwitz. Et Nathalie, vous le savez, elle a cherché jusqu'au bout à faire une place au mal, à traduire le mal dans un langage métapsychologique. Il y a un fil rouge chez elle qui relie les figures de Nathanaël et de l'automate Olympia, dont les ficelles sont tirées par des pères qui abandonne ces deux-là au vent mauvais, et ces garçons qui sont tombés du ciel dans Sa Majesté des Mouches, hein, Lord of the Flies, que vous retrouvez dès l'ouverture de l'Esprit du Mal, le fameux roman de William Golding, mais aussi le remarquable film, la remarquable adaptation filmée que Peter Brook a pu en faire. Et entre Nathanaël, l'automate Olympia, qui n'est pas vraiment une femme, et ces garçons, hein, et les régressions innommables qui sont les leurs, il y a quelque chose de l'ordre de la jouissance du mal, hein, auquel elle était très sensible, à cause justement de la jouissance que cela implique. Pas simplement pour les pires d'entre nous, mais pour tout le monde. Et par exemple, et là bien sûr, nous en venons à la pointe aiguë du mal, hein, cette jouissance se fait toujours sur le dos de quelqu'un, c'est au détriment de quelqu'un. Hein. En l'occurrence, pour Nathanaël et Olympia, c'est au détriment de Clara, la fiancée de Nathanaël dans L'Homme au sable. Et dans Lord of the Flies, c'est au détriment de Piggy, hein, qui est ce petit garçon aux lunettes, grassouillet, et avec des formes efféminées, donc. Et je crois que là, on doit faire ce lien entre la question du mal et ce qui a été une constante, mais je vais y revenir, dans la pensée de Nathalie, qui m'a beaucoup retenu, le sacrifice du féminin. Hein, la question du sacrifice du féminin. Cette jouissance du mal, de façon plus anodine, mais ne gommons pas non plus, ne rendons pas ça trop banal, cette jouissance du mal, c'est une jouissance qui s'offre à chacun et qui s'offre aussi avec tous, ça n'est pas non plus un hasard, hein, dans une salle de cinéma. Et l'écran, le partage de films a beaucoup nourri l'échange entre elle et moi, entre ses regards et les miens. Je dirais même l'écran démoniaque, pour reprendre le titre du beau livre de Lotte Eisner. Vous vous souvenez de l'injonction de Freud, on est prié de fermer les yeux, c'est dans un de ses rêves, on est prié de fermer les yeux au cinéma, sur la réalité, pour mieux les ouvrir sur les usines, sur les productions de l'usine à rêve. Et c'est cette injonction cinématographique que nous avons beaucoup pratiquée à une époque, au 14 juillet Bastille, aujourd'hui MK2, avant d'aller dîner au bistrot du Dôme, qui était un restaurant de poissons à côté, disparu malheureusement, à cet endroit, tout près de cette Bastille, dont les dernières ruines, dans un jardin d'enfants, Quai des Célestins, enfin, à côté. Ces ruines renferment donc la semence de Sade, le divin marquis, qu'elle regardait comme une énigme. Mais comment, effectivement, peut-on aimer le marquis de Sade, celui que Annie Lebrun qualifiait de bloc d'abîme? Comment peut-on l'aimer sinon en honorant sa dette, sinon en honorant la dette, je dirais, que chaque analyste a envers le divin marquis, que chaque analyste ne peut qu'entretenir avec lui, tant ce dernier, Sade, a labouré le champ des crimes de l'amour. À cette époque, je terminais un livre sur l'insolence de l'amour que Jean-François a eu la gentillesse de citer, et où je faisais une hypothèse, l'hypothèse d'un courant cruel aux côtés des courants tendres et sensuels que Freud relève dans sa psychologie de la vie amoureuse. Et c'est une hypothèse au sujet de ce courant cruel, au sujet de laquelle Nathalie m'écrivait ceci. Je la cite. Rare et précieuse alliance. Merci pour votre fermeté analytique. Je commence à saisir toute l'ampleur de l'idée sur le courant de la cruauté et qu'il y faut votre thématique de l'amour sexuel. Sinon, on tombe dans le sadisme, entre parenthèses, et non le sadien, et les pulsions partielles. Fin de citation. Dans le courant de nos discussions, mêlant comme il se doit cinéma et psychanalyse, ces deux conséquences, justement avec le jazz, ces deux conséquences de la culture arbeit au début du XXe siècle, dans cet échange revenait très souvent la figure de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qui, pour les yeux de millions de spectateurs énamourés, incarnait la femme. Et Marilyn Monroe ne cessait de l'intriguer. Et aussi, ce qui l'intriguait, c'était la conscience anticipatrice de sa chute, de la chute de celle-ci, en témoigne bien sûr son magnifique article sur le transfert hystérique, Orfèvre et Vermine. John Huston, le réalisateur dans The Misfits, Les Désaxés, en 1961, a repris une scène très sensuelle, une scène de danse, d'un de ses films précédents, qui s'appelle Quand la ville dort, The Asphalt Jungle. Et il a transposé cette scène dans le bar dans le film The Misfits, dans le bar d'une ville de rodéo, où Marilyn enflamme par le jeu de son corps et de ses fesses tournoyantes les visages de vieux cow-boys désœuvrés. C'est le dernier film de l'actrice et il montre comment Marilyn, on pourrait dire cette nouvelle Justine, en butte au mal et au mal qu'ils dispensent, ces mâles, leur peur et leur haine du féminin, comment Marilyn a pu féconder la pensée du féminin, de la féminité, c'est pas la même chose, chez Nathalie. L'ironie de ce tournage des accès, c'est de garder en mémoire que l'un des acteurs de ce film, Montgomery Clift, si féminin dans sa virilité, John Huston allait en faire le personnage de Freud l'année suivante, dans le seul film, à mon avis, jusqu'à ce jour à la hauteur de son modèle, Freud, Passion secrète, en 1962. Et 1962, c'est aussi l'année de la mort de Marilyn. Le dessin chaotique de Marilyn a suscité une réflexion de longue haleine de Nathalie sur la féminité, puis sur le féminin en tant qu'inadmissible, le féminin en tant qu'inadmissible, jusqu'à son dernier texte, Qui est le barbare, où elle soutient que cette différence sexuelle féminine, incarnée par les femmes, est de l'ordre de l'impossible à penser, tant elle suppose une rupture avec l'évidence du sexe unique et de ses retombées, à savoir le déni du sexe féminin et le refus de la valeur de sa différence. Or, de 1976 à 2008, du sexe opposé, hein, qui est un article de Nathalie que vous trouvez dans cette autre livraison de la nouvelle revue de psychanalyse, hein, du secret, donc 76, hein, de son article qui s'appelait « Du sexe opposé à qui est le barbare », c'est une constante chez Nathalie. Elle ne cesse, donc sur un écart de temps qui résume combien cette question l'a occupée tout du long, c'est une constante chez elle de s'interroger sur ceci qu'elle reprend enfin dans son dernier texte, qui est le barbare. Je la cite. Comment passer du monosexuel masculin, de la bisexualité psychique et du refus du féminin à l'acceptation d'une différence des deux sexes? Et là, il faut souligner combien Nathalie avait une conception de la différence des sexes qui est très originale. Et dès 76. Dès 76, elle montrait bien, dans cet article du sexe opposé, combien il fallait ne pas s'enfermer dans ce qu'elle appelle la bisexualité commune à l'homme et à la femme. Autrement dit, l'enjeu, ce n'est pas masculin-féminin, point. C'est masculin-féminin, ça, à la limite, presque tout le monde y parvient, bon, avec quelques difficultés pour les hommes. Mais pour elle, masculin-féminin implique aussi refus du féminin. Il y a une barre qu'elle met entre cette polarité sexuelle, d'ailleurs je vous cite ce qu'elle écrit, la polarité sexuelle qui coïncidait avec masculin et féminin s'énonce maintenant tout autrement, masculin-féminin slash refus du féminin. Cette organisation, ajoute-t-elle, n'est pas à confondre avec celle du stade génital phallique où il y a du masculin mais pas de féminin. Et elle précise, ici, la différenciation, écoutez bien, s'établit entre un pôle bisexuel et un pôle féminin refusé. C'est ça l'enjeu de sa pensée qui me semble tellement important à avoir en tête aujourd'hui par rapport à ce qui se passe du côté des femmes et des hommes. Les conversations des séminaires chez elle, rue Valette, près du Panthéon, résonnent dans ma tête et elles ont été bien sûr réanimées avec vigueur par Monette ce matin. Il n'y a plus sa photo, mais vous l'avez vu. Son visage de Kalmouk, elle aimait se définir comme ça. Elle disait « j'ai un visage de Kalmouk », comme elle s'amusait à dire. Ses hautes pommettes, sa bouche fine, ses yeux rieurs. Même triste, il pouvait rester rieur, d'une très belle couleur, gris, vert. Ses yeux qui s'animaient d'une vie généreuse en paroles, doublée de gestes et d'onomatopées bien à elle, redoublée par cette générosité, ces attentions qu'elle avait constamment pour ceux et celles qu'elle accueillait chez elle, attentions gourmandes, notamment. Elle cherchait, avec cette obstination enjouée, car elle n'avait rien d'une femme pessimiste ou morose, loin de là, elle cherchait ce passage au nord-ouest, ce passage qui lui aurait permis de découvrir comment aller au-delà du refus du féminin et parvenir ainsi à une nouvelle donne libidinale, je l'appellerai comme ça, entre les deux sexes. Et après là, nous allons justement du côté de la littérature qu'elle aimait tant. Après les fabuleuses approches de Baudelaire, hein, si enclin à accepter l'invitation au voyage que les femmes pouvaient lui faire auquel il pouvait répondre, elle percevait que Georges Bataille, en liant l'écriture et le mal, avait été lui aussi du côté de ce bijou rose et noir, hein, pour parler comme Baudelaire, et qu'il avait été là dans son écriture, pour essayer d'en extraire un peu, non pas un savoir, mais un non-savoir, en liaison avec le féminin. Ma mère de Bataille, sur ce dernier texte de Georges Bataille sur lequel elle a écrit, hein, lui a fourni les prémices de son investigation sur l'inceste sous l'angle de l'érotisme maternel. Et du point, écrit-elle, où le sexe et la mort deviennent inséparables. Mais elle était ambivalente par rapport à Bataille. Et par exemple, Madame Edwarda, malgré les guenilles, hein, de Madame Edwarda lui apparaissait comme une fiction trop secondarisée, trop prise dans l'œil justement bisexuel de son auteur, au risque d'abandonner le mal à sa trajectoire ontologique fatale, à savoir la cadavérisation du vivant, au lieu d'y voir un principe actif, une ressource, selon Nathalie, qui n'avait pu jusque-là, jusqu'à ce qu'elle survienne, hein, on peut le dire, qui n'avait pu trouver sa justification que dans les religions monothéistes, comme l'atteste par exemple l'histoire du pari entre Dieu et Satan à propos de Job, et la résistance à la souffrance que manifeste Job, cette résistance de l'humain inaugurale. Bien sûr, cette perspective monothéiste ne pouvait ni lui suffire, ni la satisfaire, même si elle admirait chez les écrivains, notamment catholiques comme Bernanos, l'évocation satanique. Par exemple, sa figuration religieuse dans le roman Sous le soleil de Satan. À ce sujet, d'ailleurs, au sujet de ce livre, elle m'écrivait ceci. Relecture immédiate et tout à fait reconnaissante, reste l'énigme de cette alliance avec Satan. Un, entre parenthèses, l'avenir, entre parenthèses, toujours actuel, du complexe d'Œdipe, dont l'analyse se débarrasse par la sublimation, point d'interrogation, tout aux antipodes de la direction que vous tracez. Pour elle comme pour moi, vous l'aurez aussi compris, la sublimation, en effet, appartient au registre des pulsions sexuelles partielles, comme elle le dit d'ailleurs dans un autre article que j'ai ici. De surcroît, le travail de culture, la guérison, où elle écrit effectivement la sublimation appartient au registre des pulsions sexuelles partielles. Elle était convaincue que seules les régressions inimaginables telle celle des garçons sans aucune fille, notez-le, hein, livrés à eux-mêmes hein, dans cette île perdue de Golding. Hein. Seules ces régressions permettaient d'entrevoir la nécessité psychique et non esthétique ou philosophique du mal. Les effondrements de Philip K. Dick, comme la déréliction de Marilyn Monroe, leur chute, décompensation, suicide, lui apparaissaient comme les effets d'une confrontation avec un autre en soi acharné à dissoudre la personnalité psychique. Un autre tout-puissant en méchanceté, et l'on rejoint Sade, capable de provoquer ces raptus suicidaires qui défrayent la chronique. Ici, le mal se confond avec la volonté du néant. Mais l'esprit du mal, son affirmation, ce qu'elle a reconnu à l'œuvre dans la pulsion anarchiste, comme elle a reconnu sa valeur clinique dans la pulsion de mort, c'est chez le meilleur adversaire littéraire de Freud, chez Dostoïevski, qu'elle va le reconnaître et l'affronter. Dostoïevski est antisémite et misogyne, russe orthodoxe, défenseur du trône et de l'autel, joueur compulsif et épileptique à 16 heures. En plus de l'avis de l'un des plus grands écrivains russes du siècle dernier, Vladimir Nabokov, il écrit mal cette langue russe si chère à Nathalie. Sur ce monstre haïssable et génial, Nathalie m'avait donné un roman trop peu connu de Leonid Tsipkin, Un été à Baden-Baden, qui rend compte de l'ambivalence passionnée que l'on peut éprouver pour Dostoïevski et son démon du jeu en l'occurrence. Ambivalence, par exemple, de Freud, alors que Nathalie percevait l'avance, c'est son expression, que Dostoïevski avait sur lui Freud, et que Tsipkin relie à un terrible secret dont il dit ceci, que je vous lis. Il ne révèle pas le secret, mais il l'évoque. Toutes ces gamines, ces petites souillons de bas quartier, y compris Lisaveta la demeurée, hein, dans les frères Karamazov, avec qui la faute devait être encore plus délicieuse à commettre, car plus la victime est désarmée, plus le plaisir pris est aigu, l'aspect crasseux ne faisant qu'ajouter au piquant de la chose. Toutes ces préadolescentes, ces nymphettes qu'allait célébrer plus ouvertement Nabokov dans sa Lolita, est-ce qu'elles ne seraient pas venues au monde pour libérer la conscience de leur créateur, Dostoïevski, de quelques terribles secrets ? De fait, qui, sinon Dostoïevski, a écrit sur le mal avec ce qu'il appelait lui-même sa vitalité de chat ? On retrouve cet animal cruel et délicieux. Qui a réfléchi sur l'emprise ordinaire du mal, à la fois ressource et malédiction, en montrant tant d'acuité et de désespoir ? Fiévreuse montée en puissance chez lui, du mal, depuis Crime et Châtiment, jusqu'à l'idiot, puis les démons, et enfin les frères Karamazov, chacun des frères en étant singulièrement la proie. D'ailleurs, la question se pose. Le mal aurait-il la vertu de singulariser son suppôt, à l'inverse d'Eros, qui agglutine ? Et là, je pense bien sûr à cette très grande dame de l'écriture qui s'appelle Etil Soum, hein, qui nous a laissé des écrits tout à fait étonnants, hein, que je ne peux que vous inviter à lire, parce que ce sont des écrits cliniques et justement en prise avec le mal qu'incarnait à cette époque le nazisme, hein, l'oppression en Hollande. Etil Soum forge cette expression « destin de masse ». Chacun de nous étant pris maintenant à la fois dans un destin singulier et un destin de masse, dans lequel nous sommes, que nous le voulions ou non, dépossédés jusqu'à un certain point de notre destin singulier, jusqu'au point où il faut se réapproprier à travers la masse quelque chose de notre singularité. Souvenez-vous, Dimitri Karamazov, dans son insoluble tourment oedipien, Ivan Karamazov, dans son délire solipsiste, Alyosha Karamazov, dans son refus des femmes, et enfin Smerdiakov, illégitime, Karamazov illégitime, dans le meurtre de la parole qu'il commet sur lui en premier lieu. Il parle mal. Il choisit de se taire. Meurtre de la parole commis sur lui avant de le perpétrer sur le père Karamazov. Toutes les voix des fils de ce père trop humain sombres dans la confusion des langues et le naufrage de leur individuation. Et la question taraudait Nathalie, la question qui vient après justement cette lecture, je dirais, qui tient à elle. Hein, entre Nathalie et les frères, il y a quelque chose qui ne peut pas être délié. La question taraudait Nathalie. Pourquoi l'échec des pères? C'était souvent quelque chose que nous discutions, notamment le dimanche, au téléphone. Brusquement, elle le faisait avec Monette, elle m'appelait et elle me demandait, peut-être parce que c'est le jour de la messe, je ne sais pas, pourquoi la parole de Moïse succombe-t-elle sous les voix discordantes des Hébreux? Et puis elle ajoutait, pourquoi le progrès dans la spiritualité manifesté par Moïse, qui est un père éthique, par rapport au père orang-outan de Lacan, orang, en liaison avec, bien sûr, l'oral. Pourquoi ce progrès dans la spiritualité ne tient-il pas la route? Pourquoi est-ce régulièrement annulé, voire à toujours recommencer? Et bien sûr, la métaphore freudienne du Zuiderzee s'imposait, toujours ces terres à reconquérir sur la mer, rien de jamais acquis psychiquement, et même aujourd'hui, on en parlait peu à l'époque, aujourd'hui la perspective avec les désastres écologiques qui nous attendent, la montée des eaux que les scientifiques anticipent de voir ces terres submergées définitivement. D'un séjour en Russie, après la chute de l'Union soviétique, elle rapportait, entre le rire et les larmes, que bien des ex-agents du KGB s'étaient reconvertis en psychanalystes. L'avenir de la psychanalyse, c'est vous dire, était loin d'être assuré pour elle. Et les bonnes intentions des apparatchiks dévoués à sa cause, apparatchiks analystes, capables, ces bonnes intentions, de paver bien sûr l'enfer avec ce qu'elle dénonçait. Pour elle, l'enfer, c'était la désexualisation sublimatoire de la vie psychique, c'est son expression, et la socialisation du pulsionnel, c'est aussi son expression. La psychanalyse devenant alors ce que la société attend d'elle depuis l'origine, à savoir que la psychanalyse collabore, ouf, avec les idéaux de la civilisation. Et enfin, qu'elle soit seulement une technique de soin des maladies psychogènes. Mais Nathalie ne négligeait pas ce que ça représente. Ça n'était pas pour elle négligeable, mais ça n'était pas suffisant que la psychanalyse se cantonne simplement à prendre soin. Et je vous lis à cet égard ce court texte, ce court paragraphe qui est extrait de La lucidité du mal que vous trouvez dans L'esprit d'insoumission. Si Freud en était resté au domptage pulsionnel, si les découvertes analytiques n'apportaient aucune autre lumière, directe ou indirecte, à la question du bien et du mal, à l'évolution générale de l'esprit, la psychanalyse serait et ne serait qu'une technique de soin des maladies psychogènes, ce qui n'est pas négligeable. En contribuant à l'assouplissement des conflits entre les différentes instances, elle ouvrirait le sujet à une plus grande conscience de lui-même, à un gain de liberté intérieure, et le laisserait plus fort face aux choix moraux qu'il peut rencontrer. Et puis, la chute. Mais à la grande question du bien et du mal, telle que l'humain l'a nouée originairement avec son existence, elle n'apporterait aucune contribution nouvelle. Et ça, c'était insupportable pour elle. Elle n'arrivait pas à se résoudre à ce que la psychanalyse ne soit plus cette alliance entre, justement, le psychique et le culturel. Le dernier film, et je vais en finir avec cela, le dernier film que nous ayons vu ensemble, c'est un film d'Ingmar Bergman, Sarabande, en 2004. Ce film a été une révélation pour elle, mais je crois qu'elle n'a pas eu le temps de l'élaborer comme elle le souhaitait. Je vous rappelle un peu le synopsis. Dans cette histoire de famille, les pères sont meurtriers de leurs fils ou incestueux avec leurs filles. Et il arrive que celle-ci, la fille du père, venant de lui échapper, échapper à son amour incestueux, va se noyer ou se laver de la souillure qu'elle éprouve dans un lac, nous sommes en Suède, mais nous ne verrons pas cette plongée dans le lac, nous entendrons la chute d'un corps. Ce que nous verrons, c'est que cette jeune fille, Karine, ressurgit de ce lac comme si la chute de son corps dans l'eau était le préambule de sa renaissance. Karine, cette jeune fille, est violoncelliste et elle va désormais vivre selon les indications du compositeur Paul Hindemith pour sa sonate pour violoncelle, indications qui sont les suivantes: vif, sans expression, lebhaft, ohne Ausdruck. Cet oxymore, vif, sans expression, comment une fille de 20 ans peut-elle l'entendre, sinon comme la déprise de la mort sur sa vie, la déliaison de la tyrannie paternelle, en renonçant à la fascination et à la sidération que l'une comme l'autre, la prise de la mort sur la vie, la tyrannie paternelle, peuvent exercer sur l'enfant. Il s'agit là, selon moi, d'un renoncement pulsionnel, une notion avec laquelle Nathalie était en débat avec moi, parce que elle était mal à l'aise, elle le dit d'ailleurs dans l'esprit du mal, elle était mal à l'aise avec cette notion si importante dans l'œuvre de Freud, mais importante, je dirais, à la fin de sa vie, tout particulièrement. C'est pour ça aussi d'ailleurs que il me semble qu'il n'est pas négligeable de relire l'œuvre de Freud en partant de l'homme Moïse et la religion monothéiste pour arriver à l'interprétation des rêves, par exemple, enfin, pour faire un retour sur Freud, en ayant en tête ce qu'il dit du renoncement pulsionnel, qu'il dit tout du long, mais avec plus ou moins de force, et tout particulièrement beaucoup de force dans l'homme Moïse, mais déjà, bien sûr, le renoncement pulsionnel est une notion centrale dans l'article sur le Moïse de Michel-Ange en 1914. Je conçois le renoncement pulsionnel comme un processus nécessaire du travail de culture tel que Nathalie l'évoque, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, justement à propos de la période dans laquelle nous nous trouvons, dans ce mouvement de civilisation et de grands périls hein, à l'horizon, hein, qui cette fois ne concernent pas simplement telle partie du monde, mais le monde, voire l'espèce humaine. Pourquoi je conçois le renoncement pulsionnel comme un processus nécessaire du travail de culture? Parce que je fais mien cette phrase de Nathalie à propos du travail de culture. Elle le définit comme une transformation. Il désigne, dit-elle, cette transformation atteinte par le moyen d'élévation du niveau de l'ensemble des processus d'investissement. Et elle fait référence à cela en s'appuyant sur Freud dans les deux principes du cours des événements de la vie psychique. Vous trouvez ça dans De surcroît, le travail de culture, la guérison. Je pressens toujours qu'avec le renoncement pulsionnel, qui est une notion difficile à travailler, hein, il ne s'agit pas de renoncement au pulsionnel, mais de renoncement grâce au pulsionnel, ce qui change vraiment l'angle. Donc, de renoncement à une décharge, celle de Moïse, par exemple, cassant les tables de la loi, hein, comme dans l'article de 14 de Freud, pour une ouverture à une plus haute affirmation et non une négation. La négation, d'ailleurs, ça n'entre pas dans le vocabulaire de Nathalie, à proprement parler. Pour une ouverture à une plus haute expression de l'esprit. Dans l'article de 14, c'est, je cite de mémoire, Moïse renonce à casser les tables de la loi au nom du message dont il est porteur. Mais c'est quelque chose qu'il fait avec tout le pulsionnel qui l'anime, c'est-à-dire cette musculature extrêmement puissante que Freud relève dans la figuration par Michel-Ange du prophète fondateur du monothéisme. Donc une plus haute expression de l'esprit où le sinnlich féconde le geistig, où le sensible nourrit le spirituel. C'est pas qu'il s'efface, c'est qu'il nourrit le spirituel, soit un surcroît d'énergie psychique. Un surcroît d'énergie psychique qui serait gagné grâce au renoncement pulsionnel. Karine, cette jeune héroïne de Sarabande, Karine, dans sa vigueur de mauvaise fille, dans sa vigueur d'infidèle, infidèle, c'est une notion sur laquelle j'ai écrit un livre que je prends vraiment dans une perspective juive, hein. D'ailleurs, je crois que c'est dans la religion juive que l'infidélité est fondée. L'infidèle, c'est celui qui fait un pas, comme disait Kafka, en dehors du rang des meurtriers, hein, qui sort du peuple pour interpeller Dieu. C'est Job, bien sûr, hein, par exemple. Donc, cette Karine accède, face au mal des pères, hein, au mal que les pères cherche à lui infliger, au mal pernicieux, parce qu'affectueux ou amoureux. Face à cela, sous la forme de son indifférence envers leurs exigences, hein, reprenant donc vif, sans expressivité, hein, sans expression, reprenant ce que Hindemith voulait pour sa sonate, Karine met à son service le mal pour le faire servir à sa vie à elle, à sa liberté souveraine. Ou comment le renoncement pulsionnel est un retournement pulsionnel qui met le pulsionnel au service du culturel. Son indifférence au chantage du père, de son père, ou même son indifférence à la vénération de la mère morte, la sienne, rejoint cette portée de l'indifférence que Nathalie discerne dans la psychanalyse comme son atout principal. Elle écrit dans Transfert Orfèvre et Vermine, lorsque l'indifférence repose sur des options théoriques, pour que la psychanalyse puisse soutenir ses engagements de guérison distincts de toute autre de toute autre entreprise thérapeutique, notamment à visée réparatrice. La visée réparatrice de la psychanalyse, ça, on peut dire qu'elle l'avait en horreur. Le mal libère, dans sa perspective, de la contrainte des illusions que nous entretenons sur nous-mêmes, si l'on en fait, que nous ne pouvons qu'entretenir sur nous-mêmes, si l'on en fait un autre usage que celui de la destruction ou de l'autodestruction, bien sûr. Mais comment admettre qu'il importe d'en passer par le mal et non de se soumettre à la barbarie des roses? Pour mettre l'énergie et l'esprit du mal au service de la reconnaissance de la réalité et non de ce que Nathalie appelait le montreur de marionnettes de la compulsion de répétition. Je trouve cette expression admirable. Là où Philip K. Dick et Marilyn Monroe se sont somptueusement dépensés et épuisés par une expressivité sans autre borne que l'excès, Karine, la jeune fille de Bergman, nouvelle Gradiva Rediviva, accepte la chute pour mieux la subvertir en recréation d'elle-même. Et à sa façon, elle est parvenue à l'aboutissement que Nathalie a signé à la cure analytique. Quand elle relève cette cure analytique de l'amour de la vérité qui se confond, selon le vœu de Freud, avec la reconnaissance de la réalité. Je cite Nathalie dans ce très grand article, L'objection par la réalité. Ce passage subjectif de la négation à l'assentiment est ce qui caractérise les effets de guérison d'une psychanalyse. Assentiment à la réalité, c'est-à-dire assentiment à ce qui sépare et qui met en rapport conflictuel et sexuel les individus, qui met en relation les amis, ou pour le dire et conclure avec Blanchot, avec lequel j'ai commencé, je le cite, l'abîme même des rapports où se tient, avec simplicité, l'entente toujours maintenue de l'affirmation amicale. Merci.